Le 13 août 2018, malgré 76% d'opposition concernant le projet de parc éolien entre l'Île-Dieu et Noirmoutier, la commission d'enquête a rendu un avis favorable sur l'ensemble des procédures et son raccordement assorti de certaines de réserves. Le 22 juin 2018, le Conseil national de la protection de la nature a rendu un avis défavorable à la demande de dérogation présentée par le consortium pour plusieurs espèces animales protégées présentes sur le site du projet. En février 2018, l'autorité environnementale avait rendu un avis favorable à ce projet sous quelques réserves. L'association Neni, les collectifs Touche pas à nos îles et Yeux vent debout non à la centrale éolienne disent non à ce projet. Dans les studios, deux personnes du collectif Il est Yeux vent debout. Bonjour Monique Malissard.
Bonjour Roland.
Ça va bien, en pleine forme?
En pleine forme.
Vous suivez le projet depuis le début et vous êtes contre ce projet. Oui. Olivier Voisin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le porte-parole du collectif.
Oui.
Ce collectif, comment est-il arrivé et pourquoi ce collectif?
Alors, ce collectif est arrivé avec l'enquête publique. On avait beaucoup d'inquiétudes et de questions sur le sujet. Et voilà, en fait, à un moment, en regardant le contenu de l'enquête publique, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même pas mal de choses qu'on ne nous avait pas dit dans les réunions publiques du consortium ou le débat public organisé par la Commission nationale en 2015 sous le chapiteau. Donc ça a permis de développer un peu ces points qu'on trouvait dans les documents.
Aujourd'hui, ce collectif regroupe combien de personnes?
On est un petit peu moins de 1100 membres sur la page Facebook.
Et en personnes physiques qui travaillent sur ce dossier?
Après, je pense qu'on est un petit noyau d'une bonne dizaine de personnes à communiquer régulièrement sur les différents éléments qu'on retrouve toujours dans ces documents, puisqu'il y a un nombre de pages considérable à regarder.
Monique Malissard, quel aspect du projet vous inquiète le plus et surtout pourquoi?
Il y a quatre grands points qui m'inquiètent. Je te les énumère et puis après on pourra développer. D'abord, c'est un projet industriel qui coûte très cher aux contribuables. Ensuite, c'est un projet qui va...
coûte combien aux contribuables? Très cher aux contribuables, vous nous dites.
Oui, alors le prix d'achat du kilowattheure que produira le parc éolien a été fixé à 150 €. Et c'est six fois supérieur au prix actuel de l'électricité sur le marché de gros européen. Pour donner un autre ordre d'idée, pour les six projets de parcs éoliens en mer, les subventions de l'État représentent 25 milliards d'euros sur 20 ans. Alors, si la communauté nationale doit dépenser des sous pour réaliser la transition énergétique, ne serait-il pas plus rationnel de mettre le paquet sur les économies d'énergie, notamment pour rendre les bâtiments, bureaux et logements au moins neutres sur le plan énergétique. Et puis, on pourrait calculer les besoins, une fois ces travaux réalisés, on pourrait calculer les besoins de production d'énergie correspondants et voir s'il y a besoin de grands parcs industriels ou non. Parce que le projet de parc éolien est un gros investissement, c'est un parc industriel qui ne va pas dans le sens de la décentralisation de la production d'énergie, c'est-à-dire... de petites unités de production au plus près des consommateurs et qui font l'autonomie énergétique locale. Je précise que cette décentralisation est qualifiée d'inéluctable par le président de la Commission de régulation de l'énergie et c'est la tendance du 21e siècle à aller vers des petites unités de production. Voilà, ça, c'était la première raison. La seconde, c'est que le projet de parc éolien va abîmer la mer. Alors, quand je dis abîmer la mer, c'est qu'il va abîmer la vie de la mer au sens large. Je donnerai la parole à Olivier qui va donner des précisions. Mais le parc éolien va être préjudiciable à l'activité de la pêche artisanale, au milieu marin, à la faune et à la flore sous-marine. Et en dégradant l'horizon, il va aussi porter atteinte à l'esprit insulaire et à l'âme de l'île. Le projet porte atteinte au vivant, c'est-à-dire au sacré.
On rappelle que c'est votre avis.
C'est mon avis. Que faisons-nous de la beauté du monde? C'est une question qu'on peut se poser.
Sur quel document vous basez-vous pour dire tout ça, toutes ces choses?
Les documents sur lesquels on se base, ce sont les documents qui figurent dans les études d'impact, qui ont été rendues publiques au moment de l'enquête publique.
Olivier Voisin,
Oui.
Sur quel document vous basez-vous ?
Alors là, c'était tout ce qui était mis en place des fondations Jacquette, hein, puisque les éoliennes vont reposer sur une fondation, enfin des quatre pieux qui font un peu structure Tour Eiffel, donc pour mettre ces pieux en place, il faut faire des forages de 20 mètres de profondeur, 20 à 24 mètres, sur 2 mètres 20 de diamètre. Ça nous fait des résidus de forage qui seront étalés dans le fond. C'est bien marqué dans le document qu'ils sont sur 19 000 mètres cubes de résidus de forage étalés au fond autour des éoliennes. Là-dessus, il y a 20% qui seront a priori dans la colonne d'eau à la dérive. Donc, vers où ça va aller? Ça, c'est un peu le questionnement. Et quelles conséquences sur la turbidité de l'eau? Il y a quand même les coquillages, après les poissons. On sait que moins de visibilité, c'est moins de phytoplancton. Moins de phytoplancton, c'est moins de zooplancton, et ainsi de suite. On joue sur toutes les chaînes. Je crois qu'il y avait déjà eu ce cas avec l'extension du port des Minimes à La Rochelle, et les miticulteurs de la baie de l'Aiguillon avaient eu des soucis là-dessus.
Ce que vous nous dites, c'est qu'il y a un problème pour la faune et la flore, ce parc éolien.
On peut se poser les questions, en tout cas. Après, ça fait quand même 4000 mètres cubes. Si c'est 20%, ça fait à peu près 4000 mètres cubes de particules qui vont se balader dans l'eau. Et les forages, c'est aussi indiqué dans les études Émines, vont durer 8 mois sur les 2 ans de travaux du parc.
Émine, c'est le consortium.
C'est le consortium.
Pour rappel.
Voilà. Et après, bon, on a à côté de ça, il faut sceller ces plots de. Enfin, il faut mettre du béton. Donc là, j'ai un volume à peu près équivalent au forage en béton. Pour relier les éoliennes, déjà avant d'emmener le courant au continent, il y aura un poste en mer. Donc le poste électrique en mer mesure 51 mètres de haut, donc la hauteur de notre château d'eau, par 40 mètres de large. Là, 40 mètres, je crois que ça doit faire à peu près 3 fois la largeur du château d'eau. Donc, pour mettre tous ces câbles, il faut, comme on est sur un plateau rocheux, il faut araser un peu les têtes de roche et boucher les fissures qui sont, enfin les failles, parce qu'il y a des failles dans les rochers, pour pouvoir mettre ces câbles le plus à plat possible. Et par-dessus ces câbles, pour les protéger, il est prévu de mettre 1,30 m d'enrochement par 9 mètres de large. Donc juste pour les câbles inter-éoliens, il y a 76 km, ça c'est marqué également dans les documents, hein, 76 km de câbles, et il faut 900 000 m3 de matériaux qui seront ramenés de carrière pour protéger ces câbles. Et les matériaux, on nous a dit, bon, ça va être génial parce que ça sera en plus des récifs artificiels. Quand on regarde la grosseur des matériaux, on part de 1,6 cm pour les plus petits granulats jusqu'à 40 cm les plus gros. Je ne vois pas bien où des conques pourront se mettre. Là, on parle plutôt de crevettes ou de petites choses. Mais,
Pour vous, en vous écoutant parler, c'est un désastre écologique.
Oui, à partir du moment où on commence à y aller à coups de bulldozer ou de. C'est plutôt une charrue qui sera utilisée d'ailleurs pour relier après le poste électrique au continent. Parce que c'est bien précisé qu'il y a c'est très chahuté comme fond marin. Donc, ils doivent, sur 10 mètres de large, égaliser le fond marin. Donc, à partir de là, il y a 2 câbles de 27 km. Ça fait. Enfin, il faut faire le calcul. Hein, 27 km sur 10 mètres de large par deux. Il y a quand même une sacrée remise à plat du fond marin qui va être entreprise.
Pour vous, il n'y aura plus de vie?
Dans un premier temps, ça va fuir. Hein. Mmh. On nous l'a dit, on a rencontré un marin de Saint-Brieuc il y a très peu de temps qui nous a dit, mais il y a des espèces qui sont très sensibles. Donc ça sera les sardines, je crois qu'il parlait aussi de la coquille Saint-Jacques qui était vraiment très sensible. Eux, à Saint-Brieuc, c'est du battage pour mettre les pieux. Nous, c'est du forage. Donc c'est différent, mais c'est également très, très bruyant. Donc il y a des espèces qui partiront, et on l'a vu aussi dernièrement, les marins du Tréport disaient que tout ce qui était barbé et les sèches, même les homards, le bruit, ils détestent et ils partent bien loin. Quoi.
Il y a des études pour contrer tout ça, non, Monique?
Oui, alors il y a plusieurs études menées par le consortium, enfin celles qu'on a examinées et puis celles qui sont l'avis du Conseil national de la protection de la nature, mais on exerbe aussi un certain nombre de points dans les études et de points manquants, des lacunes. Donc, ils font c'est un constat. Il y a une accumulation d'études qui manquent de rigueur et de sérieux. mais qui manque de fiabilité, ce qui pose un problème de confiance par rapport au consortium. Alors, pour citer des exemples, l'évaluation des ressources halieutiques a été faite avec du matériel d'amateurs et non pas de pêcheurs professionnels. Donc, évidemment, ça sous-estime la ressource. Pour les simulations visuelles, il n'y a pas eu de référence à des amers, donc ce n'est pas très réaliste. Pour l'étude acoustique, le bruit ambiant au centre de l'île n'a pas été mesuré, mais il a été extrapolé à partir de mesures réalisées à Noirmoutier. L'étude sur les courants marins, les mouvements de sédiments et l'impact sur le trait de côte, l'impact cumulé du parc éolien de Vieux-Noirmoutier et de Saint-Nazaire avec l'extraction de granulats n'a pas été calculé. Et puis, ce sont des études théoriques, puisque les fonds marins autour de l'île Dieu ne sont pas connus, puisqu'ils sont en train d'être cartographiés. Enfin, sur les espèces animales protégées, le Conseil national de la protection de la nature a rendu un avis extrêmement accablant pour le consortium. Alors, je le cite, « lacunes, insuffisance de données collectées, analyse inaboutie, description approximative, méthode d'évaluation parfois non licite, enjeu à impact sous-évalué, résultat fortement sujet à caution. » Donc, ce sont des termes extrêmement forts. Donc, de façon générale, le Conseil national de la protection de la nature a relevé que l'état des lieux effectué par le consortium ne reflétait pas les situations, que les incertitudes ne sont pas bien prises en compte et que les impacts du projet sur plusieurs espèces animales protégées, comme les oiseaux, les mammifères marins, les tortues, les chauves-souris, sont sous-estimés. Alors, pour donner juste quelques exemples parmi les plus surprenants, dans les études d'impact du consortium sur les espèces animales protégées, elles ne comportent pas d'évaluation chiffrée précise sur les populations. Donc, de quoi parle-t-on sur quelle base peut-on se fonder pour calculer les impacts? On se le demande s'il n'y a pas d'éléments chiffrés précis. Et puis, pour étudier l'impact sur l'audition des dauphins et des marsouins, l'exposition au bruit a été calculée pour des durées de 1 seconde, je dis bien 1 seconde, alors que les forages durent des heures. Cette méthode a été qualifiée de non licite par le Conseil national de la protection de la nature.
Monique, vous nous l'avez dit tout à l'heure, Sébastien Arnaud, patron du bateau Il est le bad boy, a participé à l'étude d'impact. Quels ont été ses retours? Vous nous avez parlé brièvement tout à l'heure. Olivier.
Je vais répondre un peu à la place pour Sébastien. Sébastien nous l'a expliqué d'ailleurs à une réunion publique le 13 août qu'on avait organisée. Ils ont proposé d'utiliser leur matériel. Ce qui.
Pourquoi a-t-il dit oui? Alors. À l'utilisation du matériel du consortium.
Alors, voilà, au début, lui, il voulait pas, il voulait utiliser son matériel. Mais bon, ils ont. Pour quelle raison? Je sais que c'est le consortium qui a fourni le matériel. Les campagnes ont été faites. Je ne sais plus exactement combien de campagnes, mais dès la première campagne, il y a eu, ils disaient les fils étaient tellement fragiles qu'il commençait à y avoir beaucoup de dégâts. Donc ils ont été plus doucement, comme ils disaient, bon, ils ont pêché, voilà, un homard, 3 étoiles de mer, rien de bien anormal, bien de conséquent, quoi. Et ils n'étaient pas sur leur zone de pêche puisqu'ils ont fait les études sur les points où se situent les futures éoliennes. Bon, le deuxième jour, lui, il était un peu blasé. C'est quelqu'un d'autre qui a pris la relève de son équipage. Et après, c'est un autre bateau qui a pris la suite avec les mêmes filets, mais bout à bout. C'est même dit aussi dans l'étude, dans le rapport de la commission d'enquête. Comme les filets à sol, à la fin, n'étaient plus en état, ils ont utilisé des filets à merlu. Donc, voilà pour cette étude.
Ce que vous nous dites, c'est que l'étude d'impact avec ces marins pêcheurs de l'île Dieu n'a pas été bien faite.
Bah, lui, avec ces filets-là, il disait qu'on était sûr de ne pas prendre beaucoup de poissons. Il est retourné dans la semaine un peu plus loin parce que sur ses marques, je crois qu'il avait remonté 300 kilos de rade royale. Donc c'est quand même totalement différent par rapport à ce que les captures qui ont été faites.
Ces études d'impact vont être refaites ou réanalysées? Est-ce que vous le savez?
Bah, le Conseil national de la protection de la nature fait un certain nombre de recommandations pour que le consortium revoie sa copie. Maintenant, je ne sais pas quelle est la procédure. Si ces recommandations doivent être absolument suivies, je ne sais pas quel est l'avis du consortium sur la question.
Olivier Voisin, vous êtes contre ce projet depuis le début ?
Non, je me suis retrouvé au débat public organisé par la Commission nationale sous le chapiteau en 2015. Et j'ai vu un peu de tout, quoi. J'ai vu au début des représentants de Marins de l'Île-Dieu en colère parce que le projet n'avait pas été établi comme c'était fait avec le deuxième concurrent qui était WPD, je crois, pour ce projet. Donc après, tout ça, ça a été un petit peu résolu avec Emine et ils ont trouvé quand même, les représentants, je parle du Corepem, mais ils ont trouvé quand même des points d'entente. Et j'ai vu aussi, j'ai entendu surtout beaucoup de questions très intéressantes. Ça allait des emplois. Je me souviens qu'il y avait quelqu'un dans la salle qui avait dit par rapport à un parc en mer du Nord, le ratio n'était pas bon. Que ça correspondrait pas à 125 emplois entre l'Île-Dieu et Normoutias partagés, mais plutôt 80. Depuis, il y avait même des gens qui sont beaucoup plus négatifs sur ce côté-là. Et puis, il y a encore 4 mois, j'étais persuadé qu'il y avait aucun marin qui pêchait sur le plateau des Bœufs, parce que c'est ce qu'on avait entendu, parce qu'on nous avait dit qu'il y avait pas de poissons. Et on m'a demandé de téléphoner à un marin de Normoutier qui a aussi participé aux études avec le bateau, le Bad Boy de l'Île-Dieu. Et ce marin, c'est lui qui m'a appris qu'il y avait des bateaux de l'Île-Dieu qui pêchaient. Il m'a donné les noms des bateaux. Et il m'a expliqué aussi que Normoutier, ça serait à la pêche les grands perdants de ce projet, puisqu'ils ont un parc éolien au nord sur le banc de Guérande face à Saint-Nazaire. Ils auront le parc éolien à l'ouest, sud-ouest, entre l'Île-Dieu et Normoutier. Et entre les deux, il y a encore une zone d'extraction de granulats marins qui existe. Donc eux, clairement, on leur demande d'arrêter de pêcher.
Olivier Voisin, même question qu'à Monique Mélissard. Quel aspect de ce projet vous inquiète le plus ?
C'est vraiment le côté sous-marin, quoi. Enfin, vraiment... Là, on va brasser, mais
le côté pêche, le côté ressources.
Après, voilà,
ce qui vous inquiète le plus.
Le côté pêche, ça a été dit encore à une commission départementale centralisée récemment au mois de juin à l'Île-Dieu, que les marins s'adapteront, ils l'ont toujours fait. Je l'espère pour eux, parce que suite au problème du filet maillon dérivant, ils ont quand même mis 20 ans à s'en remettre. On voit le prix que le port en a payé. Il n'y a plus les gros bateaux hauturiers, il y en a quasiment plus. Enfin. Donc ça, moi, je ne parlerai pas à la place des marins, c'est à eux de le faire. Par contre, je me demande où est aujourd'hui l'écologie dans l'éolien, puisque si on veut agir sur le climat, on se trompe de combat, vu que on veut remplacer en gros du nucléaire, qui est décarboné, qui est énergie décarbonée, par de l'éolien, qui est énergie décarbonée. Tous ont des gros déchets qu'on ne sait pas encore recycler, parce que les pales d'éoliennes, je crois qu'on estime ça à 50 000 tonnes, je crois, pour 2020, à ne pas savoir les recycler, surtout la fibre de verre. Il y a une usure assez rapide, faut les changer quand même de temps en temps. Et à côté de ça, dans les éoliennes, il y a les terres rares qui sont aussi... On en retrouve un peu partout, les terres rares aujourd'hui, hein, mais c'est fait en gros pour faire les aimants. Donc là, pareil, ça évolue. On a des techniques aujourd'hui, on arrive à ne plus faire ça. Il y a eu aussi un moment sur ces éoliennes le problème des anodes sacrificielles qui empêchent la corrosion sur les structures immergées, surtout le... Donc là-dessus...
Le consortium a changé d'avis.
Exactement.
Et il a changé de procédé.
Le consortium a changé de procédé pour un courant imposé, ce qui, a priori, n'a jamais été testé sur ces structures jaquettes. Et étonnamment, sur les 6 parcs, j'ai l'impression, parce que Saint-Brieuc, bon, c'est un autre consortium, Saint-Brieuc, ils sont restés sur les anodes sacrificielles. Donc je ne sais plus combien de kilos d'aluminium et de zinc qui sont dégradés, mais pas complètement. Il y a toujours des résidus dans l'eau et se retrouvent sur les fonds marins. Donc là, pareil, Saint-Brieuc, ça peut faire, enfin comme pour nous, si jamais on se aperçoit que le courant imposé ne marche pas et qu'il faut revenir sur cette méthode... ça peut faire un véritable scandale sanitaire sur les poissons ou les coquilles Saint-Jacques pour Saint-Brieuc qui sont pêchés dans ces zones.
C'est une crainte pour vous, dans un autre sujet, les emplois, que ce soit pour l'Île-Dieu ou Noirmoutier ?
Les emplois, franchement, par rapport à ça, je comprends la position des différents élus qui souhaitent créer de l'emploi. Ça, c'est ils ont raison quelque part. Maintenant, la question que je me pose, c'est est-ce qu'on ne va pas détruire plus d'emplois qu'on va en créer ? Alors, dans les emplois directs...
Là, vous parlez par rapport à la pêche.
Oui, la pêche, ce sera sûrement les premiers concernés, puisqu'il faudra en plus, pour ces bateaux de maintenance, des marins. Donc les marins, on sait très bien comment ça se passe. On le voit aujourd'hui avec les compagnies maritimes de transport de passagers. C'est souvent des anciens marins pêcheurs qui se retrouvent là-dessus. Donc, est-ce qu'on ne va pas détruire des emplois d'un côté pour en créer d'autres ? Et après, au niveau des emplois, on se posait aussi la question sur les logements. Puisque...
Non, mais c'est surtout par rapport à la création d'emplois.
Création d'emplois, oui.
Monique.
Oui, moi je dois dire que j'ai de très grosses interrogations sur la création d'emplois. Non seulement, quand on voit l'accumulation des études approximatives qu'a réalisé le consortium, je ne sais pas s'il s'agit d'amateurisme ou de volonté délibérée de minimiser les impacts du parc éolien sur l'environnement, mais dans tous les cas, comment faire confiance à une entreprise qui manque de professionnalisme et ou qui triche ? Donc, sur les emplois, je rappelle que le chiffre qui avait été sorti par Adwen à l'époque, on estimait 50 heures de maintenance par éolienne et par an. Donc, pour les techniciens de maintenance préventive, ça fait 2 emplois. Donc, si on ajoute les emplois administratifs et de marins, s'il y a une quinzaine d'emplois, ça serait bien le tout et non pas comme 80 annoncés sur l'île-dieu.
80 pour l'île-dieu, oui. Ouais.
D'ores et déjà, le navire Omalius qui a fait les forages exploratoires à l'emplacement des éoliennes ne comportait aucun Français. Donc, pour l'emploi local, c'est pas ça. Et il employait notamment comme main-d'œuvre du personnel asiatique dans des conditions dont on ne sait pas si elles sont licites et dignes. Dans la marine marchande, on sait que quand on emploie des Philippins, c'est dans des conditions... peu estimable et peu enviable. Par ailleurs, je me pose même la question, est-ce que la base de maintenance à l'île-dieu va être maintenue ? C'est un choix politique, parce que sur le plan financier et logistique, ce serait sans doute plus intéressant de traiter directement avec le port de Saint-Nazaire, qui est une quarantaine de kilomètres du parc.
Les marins de l'île-dieu, en 2018, sont pour ou contre ce parc éolien entre l'île-dieu et Noirmoutier ? Il y a plus de marins pour ou plus de marins contre ? Est-ce que vous le savez ?
Oui. Alors après, avec les marins, c'est pendant des années, on était sur un état de projet. On n'était pas sur... Ça fait 10 ans, je crois, qu'on parle de ce parc éolien. On le voit également à terre. On ne sait même plus si ça va se faire, ça ne va pas se faire. Au mois de mars, il y avait encore Nicolas Hulot qui disait ces zones sont mal implantées. Projet mal zoné et concertation... non pris en compte. Donc c'est vrai que jusqu'à présent, on savait pas trop vers où on allait, on était plus sur un projet qui était très vague, très loin, et on voyait un peu de communication là-dessus, mais c'est tout, quoi. Quand l'enquête publique est arrivée, on a commencé à être un peu lanceur d'alerte là-dessus, en disant, attention, vous avez vu ce qui est marqué là-dedans, c'est pas le mât et l'épale de 80... elles feront 168 mètres de diamètre et 202 mètres de haut. C'est pas seulement le côté visuel, il y a aussi un côté en dessous qu'on maîtrise pas, qu'on ne voit pas. Et on leur a dit, ils le savaient aussi, il y en a qui l'ont vu, il y en a beaucoup qui étaient déjà sensibilisés là-dessus. Et la parole s'est libérée grâce à l'enquête publique où chacun a publié un peu son commentaire que tout le monde a pu voir.
Pour en venir à la question, les marins de l'île-dieu pour ou contre ?
Voilà, donc aujourd'hui il y a une pétition qui est passée. Je sais qu'il y a à peu près une dizaine de marins qui n'ont pas été consultés parce que les bateaux étaient en peinture ou pas là. Et on avait 68 marins contre le projet, qui se prononcent clairement. Il y en a 10 qui ont refusé de se prononcer là-dessus et un qui s'est prononcé pour, ce qui est tout à son honneur, puisqu'il a ses raisons.
C'est 120 marins sur les lieux.
Oui, je ne sais pas si c'est 100, 120 marins, mais voilà.
Monique, vous êtes d'accord avec ce chiffre, 220 marins sur l'île-dieu ?
Ah, c'est le dernier chiffre dont j'ai eu connaissance, qui sans doute inclut les pêcheurs retraités.
Vous avez pu dialoguer avec le préfet de la Vendée sur ce sujet, durant sa dernière venue sur l'île-dieu ?
Non, alors...
Olivier ou Monique ?
Nous, non. Par contre, on a Bernard Martin qui est un ancien marin. Il a eu l'occasion de le rencontrer. Donc, avec des représentants de Noirmoutier. Donc, il fait partie aussi du collectif Vieux Vent Debout. Et du coup...
Qu'est-ce qui s'est dit durant cette rencontre ?
Le préfet voulait comprendre un peu... Les positions, savoir... parce que lui, pour lui, les marins étaient pour. Alors que c'est vraiment le... plus les représentants élus, comme pour nous à terre, hein, au final. Hein, c'est pas nous qui dialoguons avec le préfet, c'est nos élus. On a voté pour des gens, ils sont là pour nous représenter. On est d'accord, on n'est pas d'accord. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Le préfet va pas aller chercher le petit opposant pour lui demander son avis, parce qu'il a pas fini. Donc, mais il a quand même reçu ces gens-là. Enfin, ces gens-là, je veux dire, il y avait Marin de Saint-Gilles, il y avait Philippe Gendreau de la conserverie de Saint-Gilles, il y avait un représentant de Saint-Gilles-Croix de Ville-en-Marin, un représentant du comité local des pêches de Normoutier, et puis voilà, un représentant qui était également. Donc voilà, le préfet voulait avoir un peu plus d'explications. Pourquoi ? Parce qu'il avait l'impression qu'il y avait un changement de position.
Un changement de vent, on peut dire ça comme
voilà,
ça.
Voilà, c'est ça, c'est ça.
Quelles sont vos futures actions ?
Les actions ?
Oui.
Les actions, c'est essentiellement de la communication. Mmh. On veut vraiment montrer aux gens, parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est des centaines de pages. Moi, je ne suis pas un grand lecteur, mais on arrive tous à trouver à notre niveau des choses qui nous posent question. Donc ces questions, le but, c'est ce qui aurait pu être fait par le biais de débats, hein, mais aujourd'hui on n'a plus le temps, le projet est proche, quoi. Donc on utilise les moyens mis à notre disposition, autrement dit Facebook. Malheureusement, tout le monde n'est pas connecté là-dessus. Et on informe les gens vraiment de ces interrogations, de ces constatations, puisque on peut dire que c'est des constatations sur ce qui est évoqué, sur l'enquête publique, sur le rapport des commissaires aussi, des commissaires enquêteurs, qui est très intéressant. Donc voilà.
Mise en service 2024 normalement ?
Je ne sais plus.
Oui, mais ça a tellement été repoussé que
ça change, je ne sais plus.
On ne sait plus, il y a des recours encore, donc il y a pas mal de choses qui font que le projet prend du temps, comme tout projet en France, et voilà.
Est-ce que vous pourriez changer d'avis sur ce projet ?
Voilà, on est là pour dialoguer. Hein.
Est-ce que vous pourriez dire oui s'il y a du changement ?
C'est une bonne question. Après, on est convaincu sur... plusieurs éléments, comme quoi, comme disait Monique, il faudrait peut-être déjà... Il y a d'autres choses à faire avant ça. Il y a aussi un ingénieur consultant qui a fait un très bon débat sur l'énergie devant le Sénat en 2015, qui s'appelle Jean-Marc Jancovici, qui a dit on a engagé 120 milliards dans le photovoltaïque et dans l'éolien pour 20 ans, donc dans les subventions. Là, on en rajoute 25 milliards. Il disait avec tout cet argent, on aurait pu acheter une pompe à chaleur à tous les Français qui se chauffent au fioul ou au gaz. Et ainsi, réduire les émissions de gaz à effet de serre, si c'est le but recherché. Donc, voilà. Aujourd'hui, pour nous, la priorité n'était sûrement pas aux éoliennes. Il y a sûrement mieux à faire si on veut régler le problème de climat. Enfin, régler le problème, ce n'est pas le régler, c'est essayer de l'enrayer. Et là, on se trompe de cheval de bataille. Donc, moi, ce que j'aimerais comprendre, c'est est-ce que c'est parce que c'est subventionné à gogo ou s'il y a autre chose. Mais on l'a vu pour le photovoltaïque, ça a été subventionné. Aujourd'hui, c'est en chute libre. On n'a plus le photovoltaïque comme il y a 4-5 ans. Quoi.
Monique Malissard, peut-être un retour de manivelle ? Vous pourriez dire oui à ce projet ?
Je ne pense pas. Je reste persuadée que pour effectuer la transition énergétique, commençons par diminuer nos consommations.
Olivier,
pour revenir sur le oui ou non à l'éolien, l'Allemagne et l'Angleterre l'ont fait. Ils ont eu leur raison, parce qu'ils avaient une production électrique avec des centrales thermiques, donc que ce soit charbon, gaz, peu importe, mais c'était de la production carbonée, donc gaz à effet de serre. Et eux, ils étaient à plus de 50% de cette production qui est carbonée. Nous, je crois qu'on doit être dans les 12-15% de production qui est carbonée, et encore, je ne suis même pas sûr, je crois qu'il ne nous reste que 4 ou 5 centrales thermiques en France, dont la très célèbre de l'Ouest, Cordemais, qui doit être... aujourd'hui, on ne sait pas si elle doit être rénovée ou fermée, mais voilà. Et on se rend compte aussi que pour contrer l'intermittence de l'éolien, il faut... l'intermittence, ça veut dire le manque de vent pour qu'une éolienne produise à 100%. Et on estime qu'une éolienne n'est productive que 30 à 40% du temps.
À plein régime.
Et en mer. Parce que les terrestres, c'est 23%, je crois. Donc, pour demain, si vous avez besoin d'un TGV et qu'on n'a que de l'éolien en France, eh ben, il faut une source d'énergie complémentaire. Donc, il faut une énergie pilotable. Alors aujourd'hui, on a un truc qui est très bien, c'est les barrages hydroélectriques. Je ne vais peut-être pas dire très bien, parce que pour les gens qu'on a expropriés pour inonder les vallées, c'est sûr que ça ne fait jamais plaisir. Mais c'est quelque chose de pilotable qui peut vous dégager des mégawattheures rapidement et à la demande. Et sinon, après, il faut absolument des centrales thermiques. Donc, on met du charbon ou du gaz en fonction des besoins et on complète ce manque de vent.
Olivier Voisin, on l'appelle, vous êtes le porte-parole du collectif Dieu vend vous, non à la centrale éolienne entre l'Île-Dieu et Noirmoutier. Monique Malissard, merci beaucoup.
Merci Roland.
À très bientôt.
Merci beaucoup.